Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 15 mars 2023, en direct de Washington, Idrissa Sebudia. Pour commencer, les titres. Au Sénégal, plusieurs milliers de sympathisants de l'opposition se rassemblent à Dakar. Fin de Flintlock, l'exercice militaire annuel anti-djihadiste sous commandement américain en Afrique de l'Ouest. Arrivée en Éthiopie du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, attendu aussi au Niger jeudi. En RDC, Médecins sans frontières déplore un manque de coordination de l'aide aux déplacés. Au Gabon, le bilan du naufrage d'un ferry s'alourdit à au moins 21 morts. Au Malawi et au Mozambique, le bilan du cyclone Freddy dépasse les 200 morts. Washington accuse Moscou d'avoir provoqué la chute d'un drone américain en mer Noire. L'accord international sur les exportations de céréales ukrainiennes continue, estime l'ONU. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Donc au Sénégal, des milliers de partisans de l'opposition se sont rassemblés mardi à Dakar. C'est la première étape d'une séquence à risque avec des marches annoncées dans le pays ce mercredi et le procès prévu demain jeudi d'Ousmane Sonko, un des chefs de l'opposition. Le point avec Nani Talani.
Le rassemblement tenu dans un quartier populaire de la capitale mardi visait à faire cesser ce que l'opposition appelle l'instrumentalisation de la justice, ainsi que ce qu'elle qualifie d'arrestation arbitraire. Des militants dansaient et chantaient en t-shirt, casquettes et châles aux couleurs du Sénégal et à l'effigie d'Ousmane Sonko. Les propriétaires des échoppes et magasins environnants avaient tous fermé boutique par sécurité. Certains affirmaient venir soutenir Ousmane Sonko dans son combat contre l'injustice et la corruption. D'autres pour qu'il y ait un changement. Les autorités ont autorisé le meeting alors que l'opposition avait prévenu qu'elle organiserait son rassemblement avec ou sans autorisation. Les tensions vont grandissant à moins d'un an de la présidentielle au Sénégal. Les dossiers judiciaires ouverts contre l'opposant Ousmane Sonko et l'hypothèque qu'ils font peser sur sa candidature à la présidentielle sont source de crispation, tout comme le doute que le président Macky Sall entretient sur son intention de briguer ou non un troisième mandat.
L'exercice militaire annuel Flintlock, visant à renforcer les capacités opérationnelles des armées africaines dans la lutte anti-djihadiste, sous le commandement de l'armée américaine, a pris fin mardi après 2 semaines d'une formation donnée en Côte d'Ivoire et au Ghana. Les États-Unis soutiennent fermement les efforts de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique dans ce défi sécuritaire, a déclaré l'ambassadrice américaine en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, lors d'un discours à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, à 70 km à l'ouest d'Abidjan. L'Académie a accueilli des exercices de Flintlock organisés depuis 2005 par AFRICOM, le commandement des États-Unis pour l'Afrique basé à Stuttgart en Allemagne, et qui se concentre notamment sur l'entraînement de troupes alliées comme au Sahel, minées par les violences djihadistes depuis plus de 10 ans. En tout, 1300 soldats de 29 pays se sont rencontrés cette année, 900 au Ghana et 400 en Côte d'Ivoire. Le sujet de la lutte anti-djihadiste sera abordé par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en visite jeudi et vendredi au Niger. Monsieur Blinken est arrivé mardi soir en Éthiopie, allié historique de Washington avec lequel les liens ont été distendus par 2 ans de conflits meurtriers dans le nord du pays. C'est le plus haut responsable américain à venir en Éthiopie depuis que la guerre a éclaté en novembre 2020 entre le gouvernement fédéral et les autorités rebelles de la région du Tigré. Outre le remaillage des liens abîmés par ce conflit, marquée selon Washington par des crimes contre l'humanité, M. Blinken vient aussi soutenir le processus de paix engagé depuis 4 mois. Cette visite dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, 120 millions d'habitants, intervient sur fond d'efforts de Washington pour renforcer un partenariat américain sur le continent où la Chine et la Russie accentuent leur influence. Après l'Éthiopie, M. Blinken se rendra donc jeudi au Niger. La vice-présidente américaine Kamala Harris lui succédera sur le continent à partir de fin mars au Ghana, en Tanzanie et en Zambie. Plus de 150 000 déplacés en situation d'assistance d'urgence à Lubero, dans le Nord Kivu. Médecins sans frontières déplore le manque de coordination dans la réponse humanitaire apportée à cette région reculée de l'est de la RDC. Alexandrine Ollognon.
Ces personnes, fuyant les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, vivent dans le dénuement le plus total, déplore MSF dans un communiqué. L'organisation dit constater une lenteur difficilement explicable dans la réponse humanitaire, ce malgré les financements disponibles et la présence de nombreuses organisations à Goma. Les habitants et les déplacés des zones reculées restent livrés à eux-mêmes et ne reçoivent aucune aide, selon Caroline Séguin, coordinatrice des opérations d'urgence pour MSF au Nord Kivu. Les combats en cours compliquent l'accès à cette région enclavée. Fin février, les Nations Unies ont annoncé la suspension des vols humanitaires après des tirs contre un de leurs hélicoptères, rendant la situation encore plus difficile pour les déplacés.
Le bilan du cyclone Freddy au Malawi et au Mozambique, à la longévité record et qui a frappé 2 fois en Afrique australe en 3 semaines, a dépassé les 200 morts mardi, provoquant inondations et glissements de terrain. Les secouristes ont dit craindre plus de victimes, alors que l'espoir diminue de retrouver des survivants dans les villes et villages ravagés. Le bilan du naufrage dans la nuit de samedi à dimanche au large de Madagascar d'un bateau transportant des migrants vers l'île française de Mayotte dans l'océan Indien est monté à 34 morts, ont annoncé mardi les autorités maritimes malgaches. L'embarcation qui transportait une 60aine de passagers a sombré au large des côtes nord de la grande île. Un premier bilan lundi faisait état d'une 20aine de morts.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un avion de chasse russe Su-27 a intercepté et percuté hier un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire et provoqué sa chute. Un acte qualifié d'irréfléchi par la Maison-Blanche. L'armée russe, elle, dément avoir causé la chute du drone américain alors que la guerre en Ukraine fait craindre une escalade, Jacques Aristide.
Il s'agit d'un acte dangereux et non professionnel de la part des Russes, a déclaré le général James Hacker, commandant des forces aériennes américaines en Europe, en ajoutant que les drones des États-Unis et des alliés continueront à opérer dans l'espace aérien international. Le haut gradé a appelé les Russes à se comporter de manière professionnelle. Les actions agressives des équipages russes pourraient aboutir à des erreurs de calcul et une escalade involontaire, affirme l'armée américaine. L'armée russe a reconnu que 2 de ses chasseurs avaient intercepté hier un drone américain en mer Noire, mais assuré qu'il ne l'avait ni heurté ni entraîné sa chute. À la suite d'une manœuvre brutale, le drone MQ-9 a commencé un vol non contrôlé avec une perte d'altitude et a heurté la surface de l'eau, a répliqué le ministère russe de la Défense, précisant que les 2 chasseurs n'avaient pas fait feu et n'avaient pas eu de contact avec le drone. Les États-Unis ont indiqué avoir convoqué au département d'État l'ambassadeur russe à Washington afin de lui faire part de leur forte objection après l'incident. C'est la première fois depuis le début de l'invasion russe du territoire ukrainien le 24 février 2022 qu'un pays de l'OTAN, soutien de l'Ukraine, reconnaît perdre un équipement opéré par lui-même dans cette région hautement inflammable.
Les Nations Unies ont estimé mardi que l'accord international sur l'exportation de céréales d'Ukraine, qui a permis depuis l'été dernier d'atténuer une crise alimentaire mondiale, devrait poursuivre en l'état au-delà du 18 mars, même si la Russie en a divisé la durée par deux, comme l'a annoncé lundi à Genève le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Verchinin. Les Russes s'estiment lésés par les maigres résultats de l'accord avec l'ONU sur leurs propres exportations de céréales et surtout d'engrais et accusent les alliés occidentaux de Kiev de faire blocage. La Minute Éco, Eric Manirakidza.
En Afrique du Sud, le personnel soignant et d'employés chargés d'entretien sont en grève. Ils réclament une augmentation de leur salaire de 10% alors que le gouvernement propose 4,7%. L'arrêt de travail observé depuis une semaine affecte plusieurs hôpitaux publics. Lundi, la justice a ordonné l'arrêt du mouvement, mais les grévistes continuent d'observer la grève. L'effondrement en moins de 48 heures de la Silicon Valley Bank suscite la stupeur chez les acteurs de la tech. Ils se demandent comment cette institution essentielle à leur écosystème a pu basculer aussi rapidement et veulent comprendre la part de la responsabilité des investisseurs. Ils se demandent comment cette institution essentielle à leur écosystème a pu basculer aussi rapidement et veulent comprendre la part de responsabilité des investisseurs. L'ex-banque californienne se targuait d'avoir pour clients près de la moitié des entreprises spécialisées dans les technologies et biotechnologies financées par des sociétés de capital risque américaines qui contrôlent de près ce marché de niche. La Chine va reprendre à compter de ce mercredi la délivrance de tout type de visa, y compris ceux à des fins touristiques. Avant de se fermer au reste du monde, la Chine avait accueilli en 2019 quelque 65,7 millions de visiteurs internationaux, selon les données de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies. Depuis janvier dernier, les ressortissants chinois peuvent de nouveau quitter leur pays pour faire du tourisme.
Merci Eric. Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite des matchs de la Basketball Africa League, saison 3, ce mercredi à Dakar.
Oui, deux matchs au programme. Après leur défaite d'entrée, les Sénégalais de l'AS Douane voudraient se relancer face aux Rwandais de REG. Coup d'envoi, 19h30, temps universel. Bien avant, les Nigériens de Kwara Falcons jouent leur survie dans cette conférence Sahara face aux champions en titre, les Tunisiens de l'US Monastir, qui voudront enchaîner avec une deuxième victoire d'affilée. Hier, le stade malien s'est relancé en venant à bout de Kwara Falcons du Nigeria, 78-74. REG du Rwanda a décroché sa deuxième victoire dans cette saison 3 en dominant Abidjan Basketball Club, 80-73.
Le Maroc se déclare candidat avec l'Espagne et le Portugal à l'accueil du Mondial 2030.
Le roi Mohamed VI a annoncé hier mardi que son royaume se joint à la candidature de l'Espagne et du Portugal pour l'organisation du Mondial 2030, qui marquera le centenaire de la compétition. Cette annonce laisse penser que l'Ukraine, qui avait dans un premier temps été associée à la candidature de l'Espagne et du Portugal, est évincée du projet. Cinq fois candidat malheureux à l'organisation de la compétition en 1994, 1998, 2006, 2010 et 2026, le Maroc espère devenir le second pays du continent, après l'Afrique du Sud en 2010, à accueillir l'un des événements les plus importants de la planète. Lors du dernier mondial en décembre au Qatar, les Lions de l'Atlas ont signé un parcours exceptionnel en se hissant en demi-finale de la compétition, une première historique pour une équipe africaine et du monde arabe. La Coupe du Monde fêtera en 2030 son centenaire, un siècle après la première édition organisée et remportée par l'Uruguay, qui a officialisé sa candidature conjointe avec l'Argentine, le Paraguay et le Chili pour 2030.
En attendant, pour le Mondial 2026, la FIFA opte pour une phase de poule avec 12 groupes.
La phase de poule de ce Mondial 2026, le premier à 48 équipes, se disputera en 12 groupes de 4 sélections. L'annonce a été faite hier mardi par le Conseil de la FIFA, renonçant aux poules de trois initialement envisagées. Cette décision fera bondir le nombre de rencontres du tournoi de 64 à 104 dès l'édition partagée entre États-Unis, Mexique et Canada. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes accéderont au 16e de finale, détaille la FIFA dans un communiqué. Cela allonge d'une étape la phase à élimination directe. Les futurs champions et vice-champions du monde disputeront 8 rencontres contre 7 aujourd'hui.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédouya, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Dialogue politique au Tchad, les représentants des 18 mouvements politico-militaires et alliés membres du CPCR, cadre permanent de concertation et de réflexion, non signataire de l'accord de Doha, se sont réunis à Rome du 6 au 8 mars dernier. Avec la facilitation de la communauté de Sant'Egidio, ils étaient censés examiner les perspectives et la recherche d'une solution pérenne aux problèmes du pays. Pour en parler, Eric Manirakidza a joint le président du Mouvement pour la paix, la reconstruction et le développement, Diedouboum Sadoum.
Ce dont nous avons convenu, c'était de nous retrouver ensemble avec les Wakitama et les partis politiques qui n'avaient pas pris part au DNIS. Mais à notre grande surprise, ni les Wakitama ni ces partis politiques n'ont été invités. Nous nous sommes retrouvés encore les 18 face à la communauté de Sant'Egidio. Et c'était pour refaire le point et essayer de voir si nous pouvons évoluer vers une rencontre avec les représentants du gouvernement. Alors, les lignes n'ont pas été faciles. Donc, il a été convenu de nous retrouver encore le 24 avril prochain.
Pour parler de quoi? Le dialogue tenu à N'Djamena a prolongé la durée de la transition.
Oui. Ben, il est clair que nous ne voulons pas. Tout ça, nous l'avons prévu. Nous l'avons prévu depuis Doha. D'ailleurs, c'est même en prévision de tout ça que nous avons refusé de signer cet accord de Doha. Donc, si c'est pour nous retrouver et redire les mêmes choses, c'est pas la peine. C'est pour cela que nous avons demandé à la communauté Sant'Egidio de se rapprocher du gouvernement tchadien pour voir s'ils peuvent un peu revoir la position. Et c'est dans cette condition et cette condition seulement que nous pourrons nous asseoir pour négocier. Mais s'ils ne bougent pas, si les lignes ne bougent pas, ça va pas être facile.
Est-ce que vous pensez que quelque chose va changer, le fait que le dialogue se poursuit?
La balle est dans le camp du gouvernement tchadien. Nous sommes clairs, nous avons refusé de signer l'accord de Doha. Donc, ce n'est pas la peine de nous revoir pour dire que vous allez signer l'accord de Doha. Non. Nous voulons bien parler paix avec le gouvernement tchadien, mais il va falloir que quelque chose de positif évolue pour le peuple tchadien et que cette chose positive-là, qu'elle ne soit pas l'accord de Doha. Parce que pour nous, l'accord de Doha en tant que tel était vide. Rien n'a changé. Donc, s'il va falloir que nous nous asseyons en ce moment pour parler de paix, il faut que quelque chose évolue pour le bien du peuple tchadien.
Le président de la transition, Mahamat, peut se représenter selon les conclusions du dialogue tenu à N'Djamena. Quelle est votre position par rapport à ça?
Mais voilà, il vous souviendra que dès son premier discours, juste après le décès du maréchal Idriss Déby, il s'est engagé solennellement à ne n'assurer que la transition. Et à notre grande surprise, tout a été manœuvré pour qu'il ne tienne pas à sa parole. Et à Doha, nous avons souhaité que cela, parce que la position des partis, des mouvements politico-militaires à Doha, c'était d'acter cette déclaration-là qu'il s'engage à ne pas se présenter aux premières futures élections post-DNI. Ça n'a pas été le cas et c'est essentiellement ça qui a motivé notre refus de signer l'accord de Doha. Donc, s'il faut revenir et dire que voilà, cette fois-ci, nous allons fermer les yeux dessus, il va se présenter, moi je pense que ça n'ira pas.
Diedouboum Sadoum, président du Mouvement pour la paix, la reconstruction et le développement.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Sénégal, l'opposition mobilise alors que le principal opposant, Ousmane Sonko, fera de nouveau face à la justice demain jeudi pour une affaire de diffamation l'opposant à un ministre. Hier, des milliers de militants de l'opposition ont assisté à un grand rassemblement dans la banlieue de Dakar. Le parti PASTEF de M. Sonko accuse le pouvoir de chercher à le rendre inéligible pour la présidentielle de 2024. Pour parler de la tension politique au Sénégal à moins d'un an de cette élection, Abdourahmane Dia a joint dans la capitale sénégalaise Alioune Tine, fondateur du centre de réflexion Africa Diom.
Écoute, c'est une question de survie politique qui se pose pour le leader de l'opposition, Ousmane Sonko. Et puis, bon, les gens tirent les leçons de ce qui s'est passé pour Karim Ouad et Khalifa Sall. Donc, c'est toute l'opposition unie aujourd'hui qui, en réalité, essaye de faire le barrage pour que quelqu'un comme Ousmane Sonko ne soit pas éliminé de la course vraiment à la présidentielle de 2024.
Donc pour vous, cette réponse que certains qualifient de politique à une affaire judiciaire est tout à fait justifiée?
Bon, moi je constate, le débat politique est devenu une confrontation entre l'opposition et le pouvoir. Il y a un ensemble d'ingrédients qui font que la seule solution, à mon avis aujourd'hui, c'est que les acteurs s'assoient, discutent, parce qu'il me semble que la confrontation risque de créer le chaos dans le pays.
Alors, Alioune Tine, cela fait quand même quelques mois que vous appelez à l'apaisement et au dialogue. Avez-vous le sentiment d'être entendu ou craignez-vous une escalade? On voit, par exemple, que le camp du pouvoir aussi mobilise de son côté.
Le seul salut que je vois, moi, à mon avis, c'est vraiment le dialogue politique. Et vraiment, je pense que c'est au président de la République, aujourd'hui, avec son leadership politique connu sur le plan africain et sur le plan mondial, qui doit prendre son courage à deux mains. Le courage, aujourd'hui, ça consiste à dire, écoutez, on arrête tout ça, on s'assoit, on discute, on calme le jeu. Et effectivement, on discute pour avoir quand même des élections transparentes, des élections sincères, des élections apaisées.
On est à moins d'un an de la présidentielle. On ne sait pas si le président va se présenter pour une troisième fois. On ne sait pas si le principal opposant, Ousmane Sonko, pourra se présenter ou pas. Quand vous parlez de dialogue, sur quoi il faut dialoguer?
Écoutez, c'est l'éligibilité. La question de l'éligibilité, c'est la question effectivement du deuxième quinquennat ou de la troisième candidature de Macky Sall, troisième mandat. Pose la question de l'éligibilité avec l'article 27. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. La question de l'éligibilité, ça veut dire aussi que s'il ne savent jamais, Sonko est condamné, il ne pourra pas participer aux élections. C'est pour ça que je dis, le problème de l'éligibilité doit être vraiment le centre d'intérêt sur lequel vraiment se focalisent les choses.
C'était Alioune Tine, fondateur d'Africa Diom Center.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Gabon, les autorités ont décrété lundi un deuil national de 3 jours en mémoire des victimes du naufrage ayant coûté la vie à au moins 21 personnes après la découverte de 15 nouveaux corps et les recherches continuent pour tenter de retrouver les 16 disparus restants autour de l'épave du navire désormais localisé. Ce nouveau bilan provisoire a été annoncé mardi par le procureur de la République. Le précédent faisait état de 6 morts, parmi lesquels au moins un enfant. Le navire avait coulé au large de Libreville avec 161 personnes à bord. À Libreville, un collectif des naufragés s'est mis en place pour exiger des autorités la transparence sur la gestion de ce dossier. Notre correspondant sur place, Ismaël Obiangze.
Non, voilà pourquoi je vis comme ça.
À l'entrée du port Mola Libreville, des cierges entourent les photos des disparus du naufrage d'Esther Miracle. Chaque jour, et aux côtés d'autres parents de victimes, Nina participe à des soirées de recueillement sous les tentes. Elle veut la vérité sur le sort de sa petite sœur. Le 9 mars dernier, l'adolescente de 15 ans a embarqué dans le navire pour un voyage sans retour sur Port-Gentil.
Nous avons décidé de rester là jusqu'à ce que cette affaire soit élucidée. Je sais que nous avons au moins, pour la plupart d'entre nous, les corps, soit les personnes en vie.
Déjà 6 morts et plus d'une trentaine de personnes introuvables dans ce ferry qui transportait 161 passagers au départ de Libreville. En attendant les conclusions de l'enquête judiciaire, les autorités ont décrété un deuil national de 3 jours et annoncé la suspension des activités de l'armateur à l'origine du drame. Des mesures bien accueillies par Jeff Banzanza, il est le président du collectif des naufragés.
Ça prouve que bon, ils nous ont de moins écoutés, ils ont écouté nos revendications. Quoi qu'on aurait bien aimé que cela vienne d'eux depuis le début en fait, que ça soit traité vraiment comme une situation d'urgence et en situation d'urgence on réagit automatiquement. Je crois que la seule chose que nous attendons c'est seulement le retour des corps de nos parents éventuellement.
Au cœur du dispositif d'attente, les associations et les ONG se joignent aux familles des victimes pour porter leur cause et soutenir toute action visant la transparence du dossier des naufragés du navire. Georges Paga, du réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance.
Il y a le fait que beaucoup de passagers qui ne sont pas aujourd'hui identifiés et répertoriés sont parmi les portés disparus, ce qui dénote clairement des manques de régularité, de contrôle de la part des autorités.
Dans cette ambiance d'angoisse, de douleur et de recueillement, le gouvernement va au chevet du collectif des naufragés. Alain-Claude Bilibinzé est le premier ministre gabonais.
S'il y a des défauts de communication, on va améliorer. Il n'y a personne qui est heureux de ce qui se passe. Personne. On va continuer les recherches, on va essayer de localiser les corps et faire en sorte que les familles aient les corps.
À Port-Gentil comme à Libreville, c'est le branle-bas de combat pour honorer la mémoire des morts, mais aussi pour rendre hommage aux survivants du naufrage causé par le ferry de la compagnie Royal Coast Marine. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM. À Libreville.
Au tiers de la communauté catholique s'apprête à célébrer la réhabilitation de la cathédrale Notre-Dame de la Paix de N'Djamena lors d'une cérémonie de dédicace prévue le 29 avril prochain. C'est ce qu'a annoncé cette semaine l'archevêque métropolitain de N'Djamena, Edmond Djitangar. Un événement salué non seulement par les fidèles catholiques, mais aussi par les musulmans du Tchad. De N'Djamena, notre correspondant André Kotmadjingar.
L'église cathédrale est l'église mère de toutes les églises du diocèse, car en elle se trouve le siège de l'évêque appelé cathédrale.
Edmond Djitangar, l'archevêque métropolitain de N'Djamena. Pour lui, la cathédrale qui vient d'être restaurée est le signe de l'autorité de l'évêque et le lieu ordinaire de son service.
Pendant 10 ans, le siège était abrité par une tente, signe de précarité, mais désormais, il retrouvera sa place dans une vraie cathédrale.
Située au centre administratif de la capitale tchadienne, entre le palais présidentiel et la place de la Nation, non loin de la grande mosquée, cette cathédrale occupe une position en elle-même significative, estime le chef de l'Église catholique du Tchad.
Ces deux monuments spirituels sont les témoins tacites de notre histoire passée et ont vocation de nous rappeler la continuité historique de notre pays. Elle a aussi été le berceau de la prière interconfessionnelle pour la paix au Tchad, initiée le 1er janvier 2003.
Le premier vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdoulaïm Abdallah Ousmane, qualifie cet événement d'ainsi apaisé pour la cohabitation pacifique.
C'est un signe pour dire au monde que l'État, c'est un pays de la diversité et la liberté des choix de qui. C'est un grand signe parmi monuments du Tchad, parce qu'on voit la cathédrale, on voit la grande mosquée de Ras Faisal, on appelle aux politiciens. Pas que les policiers nous disent que le problème, c'est musulman chrétien ou nord-sud.
Les communautés chrétiennes estiment que la réhabilitation de ce joyau architectural devient non seulement le signe particulier de la foi chrétienne, mais restaure aussi l'autorité morale de l'Église catholique.
La cathédrale, c'est là où est l'administration de l'Église catholique au Tchad. Dans
Donc, quand c'est réfectionné, ça fait la joie des catholiques. La cathédrale est en sorte la vitrine du catholicisme au Tchad. C'est aussi un acte qui nous pousse à beaucoup plus nous affirmer dans notre foi et beaucoup plus encourager l'archevêque dans cela. Et la cathédrale a été consacrée même à la Vierge Marie. Donc voilà, c'est comme si le pays qui est consacré aussi à la Vierge Marie lorsque le pape était là. Donc, c'est une fierté pour nous.
Touché par une bombe incendiaire dans les années 80, pendant la guerre civile qu'a connue le Tchad, la cathédrale de N'Djamena a nécessité une restauration dont le montant est estimé à 5,6 milliards de francs CFA, interrompu par plusieurs soubresauts, notamment des malentendus avec les autorités de l'État autour de l'aménagement de l'actuelle place de la Nation et la crise économique et financière de 2014. Le projet a été relancé en 2016 par l'archevêque métropolitain de N'Djamena à partir de la demande pressante des fidèles lassés d'avoir une tente pour cathédrale d'une originalité architecturale inspirée par les cases locales. L'édifice sera prêt pour l'inauguration lors d'un service religieux spécial le 29 avril prochain. André Kordomadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, à la console, Kelvin Powler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.